direction Corbinon, prêtre du diocèse de Nantes, qui va nous commenter ces textes.
Eh bien, le texte d'évangile que nous venons d'entendre en a troublé plus d'un, et pour cause. Les paroles que l'évangéliste Saint-Luc met sur les lèvres de Jésus ne peuvent laisser personne indifférent pour peu qu'on les ait écoutées. Aimez même vos ennemis, et puis laissez prendre votre manteau à celui qui a déjà pris la tunique. Vous, mes sœurs, qui passez des heures d'adoration tous les jours pour mieux accueillir la parole de Dieu, vous avez de l'avance sur nous. Mais moi, je pense à tous les chrétiens qui ont entendu, qui vont entendre aujourd'hui ce texte d'évangile dans toutes les églises du monde. Est-ce que je me trompe en imaginant deux réactions possibles? La première, carrément, un refus de ces consignes qui apparaissent comme un défi au bon sens. Faut-il entretenir le vice? Faut-il se taire devant la haine? Et puis la tentation de ridiculiser l'évangile, et certains ne s'en sont pas privés. Ridiculiser l'évangile ou bien terroriser les chrétiens? Combien de croyants sincères, devant des textes comme celui-là, ont été sinon terrorisés, du moins angoissés, inquiets, et bien obligés de reconnaître que leurs comportements habituels et leurs réactions instinctives sont à distance de ce que nous demande l'Évangile. Mon Dieu, qu'il est important de comprendre l'Évangile pour ne pas lui faire dire n'importe quoi. Nous allons prendre du temps, tout simplement, pour essayer de le comprendre. Nous sommes là pour cela, dans cette communauté de l'adoration, et puis avec vous, les amis invisibles, devant votre écran de télévision, c'est pour vous que je voudrais tenter de faire l'inventaire de ces paroles qui ne sont pas les injonctions d'un maître dur et sévère, mais qui sont les recommandations d'un Dieu qui veut notre bonheur. Trois remarques, si vous le voulez. La première, non, ces paroles de Jésus ne sont pas un défi au bon sens. La deuxième, mais c'est tout de même une nouveauté radicale. Et la troisième, comme une question, mais ces chemins sont-ils praticables? La première, très brièvement, non, les paroles de Jésus ne sont pas insensées, il faut savoir les lire. Tendre la joue droite à celui qui vous a frappé sur la joue gauche. Jésus lui-même, durant son procès, n'a pas tendu l'autre joue aux soldats qui le giflaient. Non, non, c'est une manière de parler, bien sûr, et Jésus a voulu nous dire qu'il faut dénouer la spirale de la violence. Mais ce que nous dit Jésus est tout de même une nouveauté radicale. Nouveauté radicale par rapport à la loi de Moïse. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il nous l'a dit, mais l'accomplir, c'est-à-dire la réaliser, la pousser à son extrême limite. Les commandements, les 10 commandements étaient comme un minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre, mais Jésus veut dépasser la règle du minimum et nous inviter à plus, à toujours plus, pas seulement ne pas tuer, mais faire vivre. Pas seulement aimer ceux qui nous aiment, mais aimer même ceux qui ne sont pas très aimables. Pas seulement la loi du donnant-donnant est prêtée, on peut prêter gratuitement et sans espoir de retour. Oui, Jésus nous invite à inventer cette attitude nouvelle, cette nouveauté radicale, aimer même ses ennemis, et puis prier pour ceux qui nous font du tort. Mais une nouveauté radicale, une nouveauté vertigineuse même, par rapport à l'affirmation de Jésus. Avez-vous entendu son argumentation? Jésus ne nous demande pas de nous conformer à une loi, mais de nous conformer à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Il nous donne un modèle. Dieu lui-même. Nous sommes de la famille de Dieu. Et Jésus nous dit, si l'on ose, de faire comme Dieu et d'être des inconditionnels de la bonté. Jésus nous révèle notre vocation. Nous sommes voués à plus grand que nous, c'est un formidable défi, une formidable confiance dans l'homme, un formidable pari sur l'homme qui est invité à vivre de la vie même de Dieu. Voué à plus grand que nous, mais qui peut vivre à cette hauteur? Qui? Les paroles de Jésus qui nous parlent de désintéressement, de gratuité et de pardon sont-elles mises en pratique quelque part, quelquefois, et par qui? Ces chemins sont-ils praticables? Eh bien oui, ils sont praticables, parce qu'ils sont pratiqués. Regardez bien, regardez bien. Oh, bien sûr, il ne faut pas se fermer les yeux sur l'enchaînement des haines, des violences, des rancunes et des vengeances. C'est le lot quotidien de la vie des hommes entre eux. Et l'évangile, ce sont des réactions contraires, complètement contraires à l'évangile. Vous voyez bien que l'évangile est aux marches. Non, il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Mais on peut les ouvrir pour découvrir au cœur de ce monde de violence des gestes de gratuité, des gestes gratuits ou de désintéressement, des engagements complètement désintéressés. Regardez autour de vous, dans les couples, vous le diriez mieux que moi, les couples peuvent-ils tenir, pourraient-ils tenir, si on y consentait souvent, d'innombrables premiers pas et même de généreux pardons? Dans une communauté religieuse, alors mes sœurs, c'est à vous de le dire, je suis sûr que vous empruntez souvent ces chemins ouverts par Jésus. Et dans la société, eh bien l'actualité nous fait part de temps en temps de ces gestes héroïques ou de ces engagements complètement désintéressés. On pourrait essayer de trouver beaucoup d'exemples, mais je préfère tout conclure et résumer par une anecdote, un éclat d'évangile. Il a été écrit par un de mes amis prêtres, Gérard Bessières, et je ne résiste pas au plaisir de vous le citer à cause du style qui n'appartient qu'à lui. Elle attendait en bas, ma jolie amie de 76 ans. Que se passe-t-il? Que se passait-il pour qu'elle vienne ainsi sans prévenir? Un rien de désordre dans ses cheveux, dans ses vêtements, elle m'a expliqué. Elle venait d'être bousculée par des jeunes dans le métro qui voulaient lui dérober son sac. Elle m'a raconté avec des yeux de petite fille étonnée. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac à main. Voici mon père. C'est une petite offrande. Vous la donnerez à une œuvre qui s'occupe des délinquants. Vous comprenez, il faut bien les aider, ces jeunes. Pas un mot de colère ou de haine. Le réflexe de l'amour, le réflexe de l'évangile. En la voyant, je regardais en elle ce que pourrait être la terre si l'invisible levain de l'évangile faisait partout lever le beau pain d'humanité. Mes amis, une petite dame comme celle-là, il y en a une sur 1000, sur 10 000 peut-être, oui, vous avez raison. Ces gestes généreux de pardon sont rares. Et d'ailleurs, les chrétiens n'en ont pas le monopole. Mais nous, les chrétiens, nous, les disciples du Christ, au nom du Christ, est-ce que nous ne voudrions pas essayer de faire quelques pas sur ce chemin du pardon ou sur ce chemin de l'amour gratuit? Pouvons-nous recevoir ce levain de l'Évangile, nous aussi, pour faire lever le beau pain d'humanité? Voulons-nous recevoir ce ferment en venant communier ce matin? Il y va de notre bonheur et du bonheur de ceux qui nous entourent.
L'homélie nous est maintenant donnée par le père Gabriel Nissim, dominicain.
Il est bien plus facile de voir les défauts que les qualités. D'abord chez les autres. Ceux qui font bien, c'est la moindre des choses, c'est normal. Et leurs défauts, il faut vivre avec, et c'est pas toujours drôle. Mais vous savez, c'est aussi pareil pour soi-même. Demandez à quelqu'un son principal défaut, il va vous répondre tout de suite, il n'a que l'embarras du choix. demandez-lui sa principale qualité, eh bien vous verrez, il va hésiter, il ne va pas savoir quoi dire, parce qu'on a toujours du mal à reconnaître ses propres qualités. Et c'est vrai aussi pour Dieu. Pourquoi est-ce que tant de gens ont du mal à croire à un Dieu bon? C'est parce qu'ils voient tout ce qui ne va pas dans le monde et on les comprend. Eh bien, cette façon de voir le mal toujours avant le bien, ça c'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle être des aveugles. Avoir une poutre dans l'œil. Alors cette affaire de la paille et de la poutre, il faut bien la comprendre. Ça ne veut pas dire que chacun doit se juger pire que les autres. Saint Paul nous dit, oui, qu'il faut toujours estimer les autres supérieurs à soi. C'est une bonne attitude, mais ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit aujourd'hui. Des défauts, nous en avons tous, moi et vous. Alors, un peu plus, un peu moins, est-ce que c'est ça l'important? Ce qui est grave, ce qui rend la vie difficile les uns avec les autres, c'est quand on ne voit que le mal chez les autres, en soi et dans le monde. Vous savez, ces gens qui sans cesse critiquent, ne sont jamais contents, ont une sorte de regard négatif sans cesse, un regard amer sur les autres. Vous savez, les enfants, quand par exemple on dit « tu es nul », ça vous arrive de dire à quelqu'un « tu es nul », ben, c'est pas vrai qu'il est nul. Et si on vous dit à vous « tu as vu tes notes, tu es vraiment nul », c'est pas vrai que vous êtes nul. Personne n'est nul. Mais avec un regard de ce type-là, c'est vrai qu'on risque d'entraîner les autres avec soi dans le trou du désespoir. Et c'est très lourd à porter, vous savez. Ce qui est désespérant, hein, c'est cette pauvreté, je dirais, radicale, quand on a le sentiment qu'on n'a plus rien à donner, plus rien à apporter aux autres, que les autres n'attendent plus rien de vous. Alors on est en quelque sorte, je dirais, en chômage de la vie, en chômage de notre place parmi les autres. Du mal, c'est vrai qu'il y en a, c'est évident. Mais c'est précisément parce qu'il y a du mal que nous devons discerner avec une vraie lucidité le bien qui est aussi en nous. Il nous faut avoir cette lucidité, vous savez, qui va au-delà des apparences, au-delà du visible, pour voir le bien. Pour voir les possibilités de bien chez les autres. Une lucidité vraie, c'est une lucidité qui a de la bienveillance. Alors que, autrement, notre lucidité, elle est fausse. Elle jette sur les autres une lumière crue, une lumière cruelle. Nous avons absolument besoin d'être encouragés. D'être encouragés par un regard de confiance, les uns sur les autres. Il y a une parole que les enfants en général aiment bien dans la Bible. C'est cette parole dans laquelle on dit que l'homme regarde le visage, mais que Dieu regarde le cœur. Nous, nous ne voyons que le visage, l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Nous ne voyons que le visible, mais vous le savez bien. La vérité d'un être humain est toujours de l'ordre de l'invisible. Alors c'est une responsabilité que nous avons les uns à l'égard des autres. C'est une responsabilité que Dieu nous confie. La responsabilité d'être les témoins du regard que Dieu porte sur nous. Nous-mêmes de nous regarder les uns les autres à la façon dont Dieu nous regarde, à la façon dont le Christ nous regarde, dont il regarde les pauvres, dont il regarde les pécheurs que nous sommes. Et ce regard, il va jusqu'au plus profond de l'être, non seulement pour y discerner de la bonté, mais aussi pour y créer de la bonté. Car devant les défauts, les difficultés que nous avons les uns avec les autres, nous n'avons pas, au nom de Dieu, à être des redresseurs de tort. Nous avons plutôt à nous encourager, à nous donner le courage les uns aux autres de vivre et de faire fructifier tout ce qu'il y a de bon en nous. Vous savez, les chrétiens, l'Église, on a l'impression qu'ils sont toujours en train de corriger les autres de leurs défauts. Eh bien, non, nous n'avons pas, au nom de Dieu, à nous faire la morale les uns aux autres. Ce n'est pas ça notre responsabilité. Ni aux autres, ni à nous-mêmes. Nous avons la charge de croire. Croire en la bonté des autres. Croire en sa propre bonté. Et ce n'est pas toujours évident ni facile. Croire en la bonté de Dieu et du monde. Et ce regard-là, c'est un regard qui crée de la confiance, qui crée de la bonté. Exactement comme Sainte Julie Billard, la patronne de cette paroisse dont nous fêtons le 250e anniversaire, vous savez ce qu'elle disait, qu'il est bon, le bon Dieu. Eh bien, c'est cela dont nous avons à témoigner nous-mêmes sans cesse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, il y a un mot clé, un mot qui revient à plusieurs reprises. C'est le mot de frère. Toi, mon frère. Eh bien, si tu es mon frère, je ne suis ni ton père, ni ton maître, ni ton juge. Si tu es mon frère, je n'ai pas à t'accuser. Vous savez, l'accusateur des frères, ça c'est le démon. Nous n'avons pas à nous accuser les uns les autres, nous n'avons pas à nous dénoncer les uns les autres. Qu'as-tu fait de ton frère? L'as-tu tué par tes paroles de jugement, d'accusation, ou l'as-tu aidé à surmonter ses propres faiblesses? Alors je vous propose, pour aujourd'hui, avant le repas de midi, peut-être un petit jeu. Vous allez prendre un papier et vous allez y écrire votre principale qualité. Puis vous allez prendre un autre papier et vous allez y écrire les principales qualités des gens qui vous entourent. Puis vous allez comparer et vous allez voir, vous aurez des surprises et même d'heureuses surprises. Au sein de notre humanité blessée, souffrante, nous avons à témoigner de cette bonté de chacun d'entre nous, des qualités de chacun d'entre nous, envers et contre tout. Avoir les uns sur les autres ce regard vrai de foi, d'espérance, qu'il est bon, le bon Dieu.
L'année jubilaire est finie. Le pape a refermé les portes saintes des basiliques romaines. Les milliers de jeunes qui l'ont entouré lors des journées mondiales du mois d'août sont maintenant rentrés chez eux. De nombreuses catégories professionnelles et sociales sont venues se ressourcer à Rome et y renouveler leur foi et leur joie. Ce jubilé de l'an 2000 a été pour beaucoup un grand moment de rajeunissement, de grâce et de lumière. Mais enfin, maintenant, les lampions sont éteints. La fête est terminée et vient le temps du quotidien. Ce quotidien, parfois monotone, mais qui constitue le lieu normal de nos vies chrétiennes. Cela ne veut pas dire qu'après le temps des torches, des lampes et des cierges, nous devions maintenant placer nos vies sous des éteignoirs. Cela veut dire que la lumière reçue, doit être transmise chaque jour, qu'elle doit nous aider à vivre quand nous sommes dans la pénombre, et que les portes saintes franchies pour mieux entrer dans l'Église doivent l'être aussi pour sortir vers le monde et marcher vers nos frères. Rassurez-vous, pendant ces 6 prochaines rencontres, je ne vais pas limiter mon propos à vous parler d'ennui et de monotonie. Je voudrais simplement, en respectant l'enseignement de l'Évangile et de la liturgie de chaque dimanche, montrer que cette lumière de nos assemblées liturgiques peut et doit révéler, colorer et enrichir notre regard sur la vie de chaque jour. Commençons dès ce matin en regardant comment Jésus inaugure son ministère et son service de la parole. Quel paradoxe ! L'Esprit de Dieu le conduit pendant 40 jours de solitude et de silence dans la monotonie du désert de Juda. Il vient y rencontrer la faim, la soif et les tentations. Il ne choisit donc pas la facilité, mais toutes ces formes de combat que symbolise pour nous le désert. Il choisit d'être mis à l'épreuve, car le désert est toujours un lieu d'épreuve et de combat. Au seuil de son ministère, qui va privilégier les pauvres, voilà que le démon l'engage à rechercher le pain, c'est-à-dire la nourriture, la satiété, la jouissance de ce qui est matériel. Alors qu'il s'apprête à nous appeler au service de nos frères, le tentateur lui suggère la puissance, l'autorité, la gloire et le pouvoir sur les royaumes temporels.